Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à vous et bienvenue à tous. Voici le programme de Midi News. Nouvelle vague de menaces visant des établissements scolaires dans la capitale. Menaces graves, des menaces évidemment prises très au sérieux par les forces de sécurité, par nos renseignements. Et puis hier, dans l'Aude, voyez ces images qui nous parviennent de l'évacuation d'un établissement scolaire, d'un lycée, à cause d'une alerte à la bombe. Donc un contexte évidemment extrêmement inquiétant dont nous allons parler. Et puis justement, dans ce contexte, est-ce une nouvelle défaite de l'État ? Quel symbole envoyé avec le départ du proviseur de l'établissement scolaire Maurice Ravel, proviseur qui avait été, vous le savez, menacé de mort après avoir demandé à une étudiante d'ôter son voile. Symbole de soumission, de renoncement, notez-le, à partir de 13h, Didier Lemaire sera avec nous, professeur qui avait été menacé et placé sous protection dans son établissement de Trappes. Le maire d'Orléans ne décolère pas. Serge Grouard dénonce non pas tant l'arrivée de migrants SDF dans sa ville, mais le fait de ne pas voir le bout du tunnel, d'être mis à l'écart de tout le processus de transfert de Paris vers Orléans. Les services de l'État, rendez-vous compte, ne jugent pas nécessaire d'en informer le maire principal concerné. Et puis tout autre sujet. Écoutez. Dans le journal Le Parisien, les héritières d'Édith Piaf révèlent avoir été contactées pour autoriser la reprise et l'utilisation de l'hymne à l'amour. Alors ça ressemble à une confirmation pour une reprise d'Aya Nakamura aux Jeux Olympiques. On en parlera. Et tout d'abord, place au journal. Bonjour à vous, cher Mickaël.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et à la une de ce journal, le proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel à Paris a quitté ses fonctions. Il avait été menacé de mort après une altercation avec une élève qui refusait de retirer son voile islamique. L'établissement affirme qu'il est parti pour des raisons de sécurité, mais le rectorat parle plutôt de convenance personnelle. Les précisions de Yaël Benhamou.
Il se voulait garant de la laïcité au sein de son établissement, mais pour sa sécurité, il quitte ses fonctions. Il y a un mois, le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris demande à une étudiante en BTS d'ôter son voile islamique. L'histoire est diffusée sur les réseaux sociaux. Il reçoit alors des menaces de mort.
Il faut prendre conscience de la gravité de ce qui se passe. Nous sommes inquiets pour la sécurité de notre collègue, dont le seul crime en fait serait simplement d'avoir fait son métier et d'appliquer la loi.
Selon un message adressé aux parents et enseignants, le proviseur a quitté ses fonctions pour des raisons de sécurité. Le rectorat parle de convenance personnelle.
Ça donne clairement une impression de minimiser les choses. Ça ne rend pas hommage au courage et au travail de ce chef d'établissement.
Un jeune homme de 26 ans a été interpellé dans cette affaire. Il doit être jugé le 23 avril à Paris pour menace de mort sur Internet.
Dans l'enquête sur la disparition de Lina, la garde à vue des trois individus interpellés hier a été levée ce matin. Il s'agit d'un couple et d'un homme seul interpellé donc hier. Ils ont été interrogés sur des incohérences d'emploi du temps le jour de la disparition de l'adolescente. Lina a disparu le 23 septembre dernier alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche dans le Bas-Rhin. Un homme de 20 ans soupçonné de plusieurs viols activement recherché à Grenoble. Depuis janvier dernier, il aurait agressé 9 femmes âgées de 20 à 27 ans. L'individu a les cheveux roux, il serait vêtu de noir et se déplace en trottinette. Écoutez les précisions de Stéphane Gianellesello. Il est secrétaire départemental du syndicat de police Alliance et il parle d'un prédateur.
Comme tout prédateur, je dirais presque qu'il zone à la recherche d'une personne esselée, relativement seule, qui passerait dans un endroit plus ou moins sombre. Alors de là à dire que c'est un périmètre restreint ou un périmètre élargi, je vais rester vague, mais bon voilà, c'est Grenoble et ses alentours très proches.
Et puis la flamme olympique a trouvé son point de chute pour les JO. Elle va élire domicile au jardin des Tuileries pendant toute la quinzaine des Jeux en plein cœur de la capitale. Un endroit choisi en raison de sa facilité d'accès pour le public. Voilà Sonia, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi sur CNews. Moi je vous dis à tout à l'heure.
À tout à l'heure Mickaël. Alors il ne s'agit pas d'être alarmiste mais d'être lucide. On va en parler évidemment avec nos invités. C'est véritablement une vague de menaces sur différents établissements. Je salue tout d'abord évidemment le professeur Kevin Bossuet. Merci d'être là. Bonjour à vous Elisabeth Lévy. Merci.
Bonjour Sonia.
D'être avec nous pour Midi News. Tout comme Olivier D'Artigol. Bonjour à vous. Je salue Philippe Bilger.
Bonjour.
Merci de votre présence. Et c'est vrai qu'on pense aujourd'hui évidemment à tous ces élèves, à tous ces, pour certains des étudiants, mais beaucoup de collégiens, à ces parents d'élèves, évidemment au personnel scolaire. Regardez, il y a quelques instants sur le réseau social X, le porte-parole de la police nationale qui affirme que les menaces d'attentats et d'actes malveillants contre les établissements scolaires à travers les espaces numériques des établissements sont prises très au sérieux par l'éducation nationale, mais également évidemment par les services de police et les élus. 130 établissements scolaires ont été la cible de telles menaces à travers la France ces dernières semaines, et ça continue là ces dernières heures. Mais on est parti de menaces pour certains établissements. On a commencé par Paris, ensuite ça a été le Nord, le Sud, là de nouveau dans la capitale. Vous allez voir hier les établissements d'évacuation d'un collège dans l'Aude. Alors, Kevin Bossuet, c'est quand même un contexte. Enfin, on a du mal à imaginer comment on peut aller à l'école dans une telle atmosphère.
Ça devient très compliqué. Depuis la mort de Samuel Paty, on a toujours en tête le risque islamiste. Mais c'est vrai qu'avec ces menaces, ce risque nous revient en boomerang. On se demande si un jour, il ne va pas y avoir un véritable attentat dans un établissement scolaire. Ça a déjà été le cas avec Dominique Bernard, mais ça n'a pas encore touché d'élèves. Concrètement, moi, depuis vendredi dernier, la messagerie sur l'ENT, c'est l'espace d'échange avec les professeurs et les élèves, est bloquée pour éviter en effet l'envoi de menaces à caractère terroriste. Et de manière générale, on se rend compte à quel point aujourd'hui l'école est attaquée. L'école est attaquée parce qu'elle représente les valeurs de la République, parce qu'elle représente la transmission d'une valeur essentielle qui est la valeur de laïcité. Et c'est vrai qu'on est dans un contexte extrêmement anxiogène. Les élèves en parlent au quotidien parce qu'ils sentent bien cette menace monter. Ils sentent bien qu'on est une cible, nous, l'école. Et il y a plein de gens qui m'en parlent autour de moi parce que l'école, c'est ce qu'il y a de plus cher. Et sans prendre ainsi au cœur même de la République, c'est pour beaucoup de Français une meurtrissure et ça leur fait prendre conscience du péril qui est en train de nous gangréner année après année.
Autrefois, mais on disait, Elisabeth Lévy, que l'école était le sanctuaire. Aujourd'hui, malheureusement, c'est presque tout l'inverse.
De rien, hein, ni des idéologies, ni du progressisme, ni de rien. Et certainement pas pour la littérature et pour la transmission des œuvres, malheureusement. Mais en fait, moi, je voudrais quand même... Moi, je suis d'abord très en colère de ce qui est en train de se passer. On parlera de Ravel après. Je dois dire que j'ai un sentiment de honte et de défaite. Parce que ce qui est en train de se passer est la preuve que notre politique, si vous voulez, gentillette, si vous voulez, qui en permanence nous disons, oui, le terrorisme, bien sûr, le terrorisme, si vous voulez, mais après quelques déclarations comme ça, sur l'islamisme, c'est-à-dire sur l'idéologie qui est en train d'imprégner, si vous voulez, les cerveaux d'une... probablement une moitié de la jeunesse musulmane. Ça n'est pas rien. Et au lieu, si vous voulez, de prendre le problème à bras-le-corps, on se couche tout le temps, on exfiltre les profs en loose day. Ça se passe dans beaucoup... Vous savez très bien, on vous le raconte, on me le raconte. Il y a des professeurs qui sont menacés, personne ne dit rien, hop, on les fait partir, même s'ils ont acheté des appartements, s'ils sont installés. Si vous voulez, on est en train de reculer. Les gens ne sont jamais les gens... Les coupables sont très peu sanctionnés.
Alors attendez, là, vous parlez, évidemment, de ce qui se passe, Maurice...
Maurice Ravel, là aussi, toutes ces menaces, écoutez.
Oui, là on est sur le plan de la sécurité, là il n'y a pas de recul. Vous estimez que.
Pourquoi est-ce que toutes ces menaces arrivent là? Parce qu'il n'y a personne en face. Parce que ni la société pour mener le combat culturel et idéologique, ni l'État pour mener le combat sécuritaire. Et je racontais à Kevin, en 62, si vous voulez, le président Kennedy a envoyé des milliers de soldats pour protéger un étudiant noir. Si nous devons mettre des militaires avec nos professeurs, eh bien nous devons le faire.
Mais quelle défaite alors ? Imaginez parce que
la défaite ce serait de continuer.
Je suis d'accord.
À céder.
Mais quand même, l'image de ces forces de sécurité qui tournent autour des établissements dans un pays comme la France, c'est-à-dire qu'on est dans un pays presque où il va falloir accompagner pour certains des élèves jusqu'à l'école, si ce n'est pas une forme de chaos et de défaite, qu'est-ce que c'est ?
Ah mais c'est une défaite absolue. Mais là, pour aller directement dans le sens que vous avez évoqué, Sonia, moi je m'interroge, est-ce qu'il s'agit la multiplication de ces menaces ? Est-ce qu'il s'agit d'un dessein cohérent, collectif, une entreprise de déstabilisation et d'intimidation ? Ou est-ce qu'on profite, en effet, comme le dit très bien Elisabeth, d'une sorte de « je ne peux pas accepter », on tente de faire des choses contre cela. Est-ce que c'est des initiatives isolées qui profitent de la facilité de ces menaces qui font de toute manière peur avant même qu'elles, tragiquement, elles se concrétisent ? Là, je ne sais pas.
D'autant que je voudrais préciser, parce qu'hier, Sophie Audugé, qui était sur notre plateau, qui est responsable de SOS et Éducation, s'alerte aussi de plusieurs adresses électroniques, mais pas seulement, qui circulent d'élèves, de parents d'élèves, et donc... on peut deviner l'origine, on peut deviner aussi parfois, beaucoup de choses qui, dans un contexte comme le nôtre, avec ce qui se passe au Proche-Orient, est explosif. Donc vraiment, aussi, mettons-nous à la place, d'ailleurs nous le sommes, ces parents d'élèves, ces élèves.
Certains, mais nous avions des signaux avant l'affaire Maurice Ravel, c'est qu'il y a une... Les écoles sont ciblées par les islamistes. Après, ce que je ne comprends pas dans ce qui vient de se passer, c'est comment on peut avoir une réponse aussi ferme sur la baïa, avec une quasi-unanimité politique et un soutien très fort dans la population, avec une société qui tient face sur le sujet de la baïa, et là, vivre quelques semaines après un tel effondrement sur ce qui vient de se passer à Ravel, et qui peut donner, j'ai envie de dire, un effet d'aubaine, qui peut donner l'envie... aux islamistes de pousser plus fort encore, puisque la réponse n'a pas été, elle n'a même pas été à la hauteur, elle a été indigne.
On va en parler, parce que c'est vrai que les situations sont liées. Avant d'aller justement à l'établissement Maurice Ravel, et nous y sommes, je voudrais indiquer sur le contexte de menace ce qui s'est passé exactement la nuit dernière. C'est une vingtaine d'écoles, d'établissements scolaires qui ont été visés par de nouvelles attaques, donc via ce qu'on appelle les ENT, les espaces numériques de travail. Un message de vigilance a été transmis à l'ensemble des chefs d'établissement, directeurs d'école et inspecteurs. Une procédure de signalement a été mise en place pour bloquer les comptes et signaler chaque incident. Encore quand même une question. Dans ce cas-là, principe de précaution, de surprécaution élémentaire, on ferme les établissements ? Ou alors, on se dit qu'il ne peut pas y avoir de parenthèse aussi dans l'enseignement, on continue en surprotégeant les abords de ces établissements ?
Fermer les établissements, ce serait une victoire pour les islamistes. Oui. La transmission des valeurs républicaines doit continuer. La transmission de la valeur de la laïcité doit continuer. Alors évidemment qu'il y a un principe de précaution, évidemment qu'il faut sécuriser les professeurs et sécuriser les élèves, mais fermer les écoles, ce serait renoncer. Et il ne faut pas faire ça. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur. La menace est certes présente, mais la menace ne nous atteindra pas. Nous sommes un grand pays, nous sommes une grande nation. Il faut être fier de nos valeurs. Et malheureusement, il y a certains hommes politiques qui ont tendance à s'excuser quand il s'agit de mettre en avant certaines valeurs. Mais il ne faut plus s'excuser. Il faut continuer à lutter, continuer à se battre. Moi, je me souviendrai toujours, après le Bataclan, d'un membre d'une famille des victimes qui nous a dit « il faut rester debout ». Il faut rester éveillé, parce que le but des islamistes, c'est d'insuffler la peur. Moi, quand je suis dans ma salle de classe, je refuse d'avoir peur, je traite tous les pans du programme, et le jour où je n'y arriverai plus, je renoncerai à mon métier.
Voilà. Kevin, et c'est tout à votre honneur, mais il faut aussi comprendre la peur de certains, l'angoisse, et vous le savez aussi, aller la boule au ventre à l'école,
mais c'est pas ça. Nous avons parlé à des professeurs, moi ça m'est arrivé de parler à des professeurs dont le cas n'a pas forcément été médiatisé, quand les menaces commençaient à se faire très précises, que la protection policière durait des fois une journée, deux journées, que la DGSI leur disait « vaudrait mieux que vous déménagiez, excusez-moi ». Oui, je veux dire, moi je demande pas aux gens d'être des héros, mais je voulais juste vous dire, je sais pas si vous êtes au courant, il y a un rapport, il se trouve qu'il y a une commission qui avait été demandée, une commission parlementaire qui a été demandée par Michaël Paty, vous savez, et cette commission au Sénat a rendu un rapport justement sur les pressions sur les enseignants. Et ce qu'ils disent, c'est que maintenant, ils disent d'abord que ce qu'on voit, que les incidents déclarés sur la partie émergée de l'iceberg et ils disent que maintenant, c'est dans tout le territoire et dans tous les types d'établissements.
Nous l'écouterons justement, la sœur de Samuel Paty, Mickaël Paty, dans quelques instants. Nous allons aller aussi à l'établissement de la cité scolaire Maurice Ravel. Notre journaliste nous y attend, mais tout d'abord les titres avec vous, cher Mickaël.
L'enquête sur la disparition de Lina, la garde à vue des trois individus interpellés hier a été levée ce matin. Ils ont été interrogés sur des incohérences d'emploi du temps le jour de la disparition de l'adolescente. Le proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel à Paris a quitté ses fonctions. Il avait été menacé de mort après une altercation avec une élève qui refusait de retirer son voile islamique. Un départ qui suscite l'indignation de la classe politique. Et puis la flamme olympique a trouvé son point de chute pour la période des JO. Elle va élire domicile au jardin des Tuileries pendant toute la quinzaine des Jeux en plein cœur de la capitale. Un endroit choisi pour sa facilité d'accès au public.
Merci Mickaël, à tout à l'heure. Je vous rappelle qu'à partir de 13h, il nous rejoindra. C'est le professeur Didier Lemaire qui avait été menacé, et plus que ça. Il avait eu énormément de problèmes, qui a aussi tenu. Et puis finalement, il a fini par tourner la page. C'était à Trappes. Il dénonce depuis très longtemps l'emprise et l'entrisme islamiste à l'école. Il nous rejoindra pour nourrir ce débat. Mais tout d'abord, c'est la question en fait. Est-ce une défaite de l'État? Et plus largement, quel symbole envoyé après le départ du proviseur de l'établissement scolaire Maurice Ravel? Proviseur qui a donc été menacé de mort après avoir simplement demandé à une jeune femme d'ôter son voile. Nous sommes avec notre journaliste Augustin Donadieu. Tout d'abord, Augustin, sur place, j'allais dire, qu'est-ce qui ressort de ce que vous entendez des personnes que vous interrogez quand ils ont appris justement le départ de ce proviseur ?
Eh bien déjà Sonia, depuis ce matin, cette démission du proviseur du lycée Ravel dans le 20e arrondissement de la capitale, juste derrière moi, est dans la tête de tous les élèves. Ils ont reçu hier un mail que nous avons pu consulter, un mail les informant de la démission de leur directeur pour, je cite, des raisons de sécurité. Mais depuis cette démission, eh bien deux versions s'affrontent en quelque sorte dans les couloirs de l'établissement entre les élèves. Il y a ceux qui ne comprennent pas que ce dernier ait démissionné, que cette histoire ait pris tant d'ampleur que ce directeur ait reçu des menaces de mort, un directeur très à cheval sur les principes de de laïcité dans son établissement et qui appliquait la loi à l'entrée de ce dernier. Et il y a les autres personnes qui, en quelque sorte, se réjouissent de son départ et qui affirment face à notre caméra que ce dernier avait frappé l'une de leurs camarades. Écoutez-les.
On trouve ça bien qu'il ait démissionné parce que c'est pas un bon professeur.
Faut pas menacer de mort quelqu'un pour si peu. S'il a démissionné, c'est qu'il se sentait peut-être en danger ou pas, je sais pas.
Les menaces de mort, elles sont pas du tout venues de cette fille ni de sa famille. Et je trouve ça hyper grave d'instrumentaliser les gens comme ça. Elles sont venues de gens comme partout, la désinformation. Ça peut être n'importe qui. Ça se trouve, c'est son voisin qui était énervé contre lui et qui en a profité.
Moi, ça me fait rien. Hein. Dans tous les cas, s'il voulait partir, il avait qu'à partir. Enfin, je m'en fous un peu. Hein.
Alors, un proviseur a été nommé en intérim pour remplacer celui qui est parti donc pour des raisons de sécurité officiellement. Le corps enseignant que nous avons tenté d'interroger reste silencieux à l'exception d'une professeure de musique. Et pour cause, pourquoi ce corps enseignant ne prend pas la parole? C'est parce que lui-même n'est pas sur la même longueur d'onde et il y a des distensions parmi les professeurs.
Merci beaucoup Augustin Donadieu. Ce que nous dit Augustin est très important. D'abord, je trouve que les quelques réactions que l'on vient d'entendre sont tristes.
Affligeant,
c'est le mot, vous avez entièrement raison. Vraiment, ça...
Et ça demande à rétablir la vérité. Cette étudiante en BTS n'a pas été frappée. Il faut le rappeler. L'une des personnes qui a menacé de mort sur les réseaux sociaux, ce proviseur, est traduite en justice. Le procès aura lieu dans quelques semaines. Fin avril de mémoire.
Et certainement très impressionné.
Donc il faut revenir dans ces moments-là aux faits, à la réalité des faits.
Et Olivier, pardonnez-moi, les faits, ce sont aussi, Augustin nous l'a dit, des professeurs qui, alors, peut-être beaucoup de raisons, n'ont pas envie de s'exprimer. Une professeure a accepté finalement de répondre, d'exprimer, mais je trouve que le fait que beaucoup ne s'expriment pas, alors je peux comprendre la peur, mais là, est-ce que c'est un manque de soutien? Est-ce que ce sont, comme l'a dit Augustin, des lignes
Apparemment, ils ne sont pas tous sur la même ligne.
Franchement, c'est le même scénario, évidemment, attention, je ne dis pas la même fin tragique, mais le même scénario que pour Samuel Paty.
Je vous pose juste une question, Kevin, sur le fait générationnel. Est-ce que les jeunes profs sont sur la question de la laïcité qui, pour ma génération, on l'avait chevillée au corps, est-ce qu'il y a un phénomène générationnel?
Alors, si vous voulez, au niveau au niveau syndical, au niveau social, les vieux professeurs sont plus actifs, mais sont davantage attachés à la laïcité. Quand on s'intéresse aux plus jeunes, ils sont évidemment contaminés par l'idéologie woke, ils font des procès en islamophobie tous les quatre matins. Mmh. Et en effet, c'est un véritable problème. D'ailleurs, il y a un sondage qui était sorti il y a quelques semaines qui ont montré que 20% des professeurs dans le secondaire étaient pour le port de tenues religieuses au sein de l'espace scolaire. Alors moi, pour fréquenter beaucoup de professeurs, dans tout, pas forcément dans mon établissement, mais dans l'ensemble des établissements, je vois bien qu'il y a une peur qui est là, mais il y a aussi une part importante d'idéologie.
Mais Jean-Pierre Robin, pardonnez-moi, l'a dit dans son livre, hein, ancien inspecteur de l'éducation nationale, il dit une partie des enseignants, je ne sais pas, moi je ne veux pas quantifier, et beaucoup parmi les plus jeunes ne veut pas en fait voir la laïcité comme étant un outil. Et
déjà,
ils
ne savent pas définir ce qu'est la laïcité, oui. Parce que souvent il y a des problèmes de culture personnelle là-dessus, même chez les professeurs d'histoire-géographie. Et ensuite, il y a une idéologie. Pour beaucoup, laïcité stricte, c'est islamophobie. Ça pose problème.
Est-ce qu'on peut simplement écouter cette professeure, parce que c'est un témoignage assez rare qui a accepté.
Peut-être parler.
Voilà, exactement. Alors, que pense-t-elle du départ ? Parce que juste le rectorat dit que c'est une retraite
convenance personnelle.
Non, respectons, ça se trouve, c'est
oui,
ça.
Oui, respectons sa décision.
Le proviseur qui
mais
n'a
nous,
pas voulu.
Ce qu'on interroge, ce n'est pas sa décision à lui. C'est est-ce qu'il a reçu le soutien nécessaire pour ne pas aboutir à une telle décision.
Le Parisien citait quand même quelqu'un dans son papier de ce matin, une source proche, donc je suppose c'est quelqu'un qui disait qu'en fait, ça n'était pas réellement le souhait du proviseur. Ce qu'on peut dire, c'est que probablement, s'il avait eu un soutien sans paille, s'il avait eu une protection physique, bien, peut-être que ce proviseur aurait préféré.
Il manque une phrase dans le communiqué du rectorat. C'est le fait que ce proviseur a été menacé par des islamistes. Si cette phrase est intégrée, la formule convenance personnelle.
Alors écoutons cette enseignante.
Nous, on trouve ça bien qu'il ait démissionné parce que c'est pas un bon proviseur.
Faut pas menacer de mort quelqu'un pour si peu. S'il a démissionné, c'est qu'il se sentait peut-être en danger ou pas, je sais pas.
Les menaces de mort, elles sont pas du tout venues de cette fille ni de sa famille. Non. Et je trouve ça hyper grave d'instrumentaliser les gens comme ça. Elles sont venues de gens comme partout, la désinformation. Ça peut être n'importe qui. Ça se trouve, c'est son voisin qui était énervé contre lui et qui en a profité.
Bien, vous l'avez compris, c'est une erreur. Ce sont les réactions là, en grande partie des élèves. Voyons justement cette professeure.
Notre proviseur a appliqué la loi, c'est-à-dire qu'il a demandé à une élève d'enlever son voile. Voilà. Et donc, c'est très bien. Voilà, donc je suis désolée effectivement qu'aujourd'hui il est obligé d'arrêter ses fonctions. Ce n'est pas normal. Il y a une pression d'enfer, il est sur les réseaux sociaux, mis à mort sur les réseaux sociaux, c'est inadmissible.
Et à l'instant, on apprend que Gabriel Attal, le Premier ministre, recevra cet après-midi le proviseur du lycée Maurice Ravel menacé à mort. Donc à Matignon, Gabriel. Non, attendez, il y a des signes. Quand on parle de soutien, là, je voudrais quand même insister. Puis je vous laisse.
Oui, mais ce soutien, d'abord, excusez-moi.
Donc le Premier ministre va recevoir ce proviseur.
Non, mais c'est très bien. Mais écoutez.
Il ne l'aurait pas fait, on aurait dit regardez que fait l'État.
Permettez-moi quand même, si vous voulez, de ne pas m'en contenter. Parce que ça, on l'a déjà vécu, le soutien, on l'a vécu après Samuel Paty. Et ce soutien est tout à fait sincère. Mais en fait, si on ne change pas de braquet, un sur le diagnostic. Sur le diagnostic, c'est très important. C'est ce que dit souvent Marcel Gauchet, c'est que notre problème en France, c'est qu'on ne sait pas la situation dans laquelle on est. Mais deux, sur la réponse. Je crois que la laïcité, ça ne suffit pas. Il faut dire clairement, voilà, en France, c'est comme ça. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez tout à fait choisir d'autres pays. Mais en France, on accepte la critique de la religion.
Et ça ne suffit pas, apparemment. Pour ceux qui le disent, ceux qui s'élèvent...
Pourquoi ça marche en Suède ?
Ça ne suffit pas. Peut-être que ce n'est pas la même immigration, la même intégration, le même modèle d'assimilation.
Ce n'est pas le même État. C'est surtout pas le même État.
Vous avez raison.
Tout de même, lorsqu'on est face à l'incurie d'un État, en général... On ne peut pas se permettre de chipoter. Moi, je trouve important que le Premier ministre, dont on estimait hier qu'il devait intervenir, reçoive le proviseur. Alors, je suis frappé tout de même, Sonia, par quelque chose qui est surprenant. C'est que Kevin a très bien dit tout à l'heure à quel point il fallait être être fier d'exercer un très beau métier et courageux dans son exercice. Mais au fond, de plus en plus, on confronte certaines personnalités et pratiques libres et courageuses à la déroute absolue des hiérarchies, des institutions et des pouvoirs.
Écoutez, apparemment, c'est une affaire grave. Mais vous avez raison. Mais grave, Sonia, dans un contexte de menace.
Si on avait un autre sujet, je pourrais l'appliquer à tout beaucoup à de phénomènes.
Alors, on va en parler. Est-ce que c'est une forme, très bien, dont acte, le Premier ministre va le recevoir. Moi, je me demande qu'est-ce qu'il va lui dire. Ah. Non, mais imaginons, nous sommes dans le huis clos du bureau à Matignon. Vous êtes un proviseur, vous partez parce que vous avez ce contexte de menace. Vous êtes Premier ministre. Qu'est-ce que vous dites? Revenez. On aurait dû vous garantir. On vous a garanti.
Mais vous avez raison.
À
part le symbole, je ne crois pas qu'il
aura déjà.
Bravo.
Mais oui. Je ne crois pas que Didier Le Maire à l'époque avait été reçu par le Premier ministre.
On lui posera la question.
Me rallie là-dessus. Vous avez raison.
Il faut tout à fait. Signaler. Elle était là.
Non mais attends.
Non mais je suis d'accord.
Je vais pas compter les déplacements des ministres.
Moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Ayons du respect pour l'autorité hiérarchique. Ayons du respect pour le rectorat. Non mais vraiment.
Le rectorat est respectable.
Ben pour moi le rectorat est respectable en tout cas.
Attendez, mais moi je ne.
Je crois en sa version.
Oui.
Ah vous croyez comme ça?
Oui.
Après tout, moi je veux bien y croire,
Samuel Paty, qui a décidé proche de la retraite de jeter l'éponge et qui a trouvé un compromis pour pouvoir partir.
C'est-à-dire que convenance personnelle, ça c'est on peut pas en préjuger, mais le communiqué du rectorat passé sous silence.
On va continuer à en parler.
Le réel.
En fait, on dit la même chose.
Que lui a
on est tous atteints et pris d'une telle situation. À tout de suite, une courte pause. Beaucoup d'actualités autour de l'école, vous l'aurez compris aujourd'hui. On vous a parlé tout à l'heure de ces menaces d'attentats qui se poursuivent. Une vingtaine d'établissements scolaires visés désormais dans la capitale. Et puis il y a ce qui se passe à l'établissement, à la cité scolaire Maurice Ravel, où ce proviseur a quitté ses fonctions. Et on a appris il y a quelques minutes que le Premier ministre Gabriel Attal allait le recevoir cet après-midi à Matignon. On va évidemment y revenir après vos titres, cher Mickaël.
Un homme de 20 ans, soupçonné de plusieurs viols, activement recherché à Grenoble depuis janvier dernier. Il aurait agressé 9 femmes âgées de 20 à 27 ans. L'individu a les cheveux roux, serait vêtu de noir et se déplace en trottinette. 6,5 milliards d'euros, c'est le montant de la facture des catastrophes climatiques pour les compagnies d'assurance en 2023, troisième année la plus marquée en termes de sinistres climatiques après 1999 et 2022. Et puis les recherches sont suspendues à Baltimore au lendemain de l'effondrement d'un pont. Les autorités américaines estiment qu'il y a désormais peu de chances de retrouver les 6 disparus. Joe Biden s'est engagé à reconstruire le pont au plus vite.
On poursuit le débat avec nos invités. Puis cette information, effectivement, le Premier ministre Gabriel Attal qui va donc recevoir le proviseur de l'établissement Maurice Ravel. Bien sûr que c'est un
positif.
Signal.
C'est très
positif.
Très positif.
Mais connaissant quand même l'implication du Premier ministre sur ce sujet-là, moi la question reste, que va-t-il lui dire? Que peut-il lui dire maintenant qu'il est parti, partant?
Mais il ne lui dira probablement pas de revenir, mais il pourra, je l'espère... Ensuite, après l'entretien qu'il aura avec ce proviseur, dire ce qu'il pense véritablement au rectorat. Parce qu'il avait déjà eu des reproches à faire lorsqu'il était ministre, il les a fait. Et donc, il est fondamental que le Premier ministre montre que la volonté qu'il avait manifestée de garder sous l'esprit, en quelque sorte, la rue Grenelle et mon Dieu avec Belloubet, c'est plus que jamais nécessaire. Va être sauvegardé.
Nous étions restés sur l'image de l'élève qui reste dans l'établissement et le proviseur qui part. C'est cette image-là qui était insupportable. Donc le fait qu'il soit reçu à Matignon, où l'éducation a suivi, selon le mot du Premier ministre Gabriel Attal, depuis Grenelle, et d'abord quelque chose de très positif en termes de soutien, de message.
Symboliquement, c'est hyper important. Moi, je fais partie de cette communauté éducative et le fait que le Premier ministre rencontre ce proviseur, pour moi, c'est essentiel. Et en fait, il est dans la continuité de tout ce qu'il a fait à la tête de l'éducation nationale, de l'interdiction de la abaya à une vision de la laïcité qui était très stricte. Et c'est ce devoir d'exemplarité que j'aime.
Regardez
chez Gabriel Attal.
J'aimerais
juste dire une chose, Sonia, parce que moi, j'ai été choqué par une élue de la France insoumise, Danielle Simonet, qui le jour... où il y a eu cette altercation
au sein du lycée avec cette jeune fille voilée, a remis en cause sur Twitter le témoignage du proviseur qui n'a pas soutenu cet hussard noir de la République. Qu'il y ait des rumeurs, qu'il y ait de la calomnie, quand ça vient de gens qui sont complètement extérieurs, mais que ce soit le fait d'une députée, je pense que cette députée n'a rien compris au processus qui a mené à la mort de Samuel Paty. Et je trouve ça grave.
Je voudrais simplement commenter. Ça, c'était les images que vous voyez, c'était le 5 mars. Oui. Alors, pas celle-ci, c'était le 5 mars dernier. Oui. Donc, c'était quand Nicole Belloubet et Gabriel Attal s'étaient déplacés à l'établissement Maurice Ravel. 5 mars.
Bien sûr.
Et depuis, c'est un continuum de menaces.
Absolument.
Pour ce proviseur. C'est ça qu'on oublie quand même.
Et justement, je pense qu'il faut faire attention. Ça ne s'arrête pas à la porte de l'école. Dans le rapport dont je vous ai parlé, il y a plusieurs recommandations, dont celle. Si vous voulez, de s'en prendre un peu aux parents. Alors, ils veulent leur faire signer des chartes. Je ne suis pas sûre que tout ça soit très important. Mais l'un des problèmes aujourd'hui de l'école, et notamment en particulier de l'école publique, si vous voulez, c'est le rôle des parents dans tous les domaines, d'ailleurs. Hein. C'est pas seulement, là-dessus. Mais là, vous avez souvent des parents qui relaient exactement... Comme dans l'histoire de, dans le drame qui aboutit à Samuel Paty. Mais si vous voulez, encore une fois, ça, si on concentre simplement nos efforts sur l'école, on oublie ce qui se passe autour.
Mais
il y a des
gens
pour répondre à la question de Philippe. Que ce soit je ne suis pas sûr que ce soit coordonné. Mais on a partout ces entrepreneurs identitaires. Hugo Micheron, je crois que vous avez déjà reçu, on parle très bien. Et il y a ces entrepreneurs identitaires, ces gens, si vous voulez, qui eux mènent un combat idéologique. Si on ne le mène pas nous, on est foutus.
Mais on est d'accord que la bataille est sur le plan culturel. Vous avez entièrement raison que la laïcité. Point, comme on dit, ne suffit pas. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure avec Didier Lemaire qui va nous rejoindre, ce professeur menacé qui a dû quitter aussi, qui a été en tous les cas mis sous protection dans son établissement à Trappes. Mais tout d'abord, alors est-ce que c'est un signe d'impuissance? Nous sommes en pleine opération dite Place Nette.
Oui.
Et voici ce qui s'est passé à Nice. À Nice, on en parle déjà depuis plusieurs jours. Là aussi, c'est un continuum de menaces, de violences plutôt, dans le quartier des Moulins. Mardi après-midi, donc hier, une quarantaine d'individus se sont affrontés dans une violente rixe qui a fait plusieurs blessés. Un membre de force de l'ordre a également été blessé. La veille, fusillade au bas d'une barre d'immeuble, enchaînement d'hyperviolence et en même temps, une communication pour dire « Regardez, on fait Place Nette ». Juste à côté, hein. Marseille, Avignon, etc. Le sujet vous est résumé par Maxime Leguet et Aminata Demphal.
Cette place des Amaryllis, dans le quartier des Moulins à Nice, est devenue le théâtre d'affrontements sur fond de trafic de stupéfiants. Des scènes d'une violence inouïe.
Sur les affrontements, les personnes résidentes de la cité excédées par la situation liée au trafic de stupéfiants, mais également se sont joints à ce groupe de résidents des dealers d'autres points qui se sont livrés à un lynchage sur de jeunes individus venus pour la majeure partie du Maghreb en situation irrégulière.
Lors de ces affrontements, 4 personnes ont été retrouvées blessées, dont un grave. Un policier a également été légèrement touché à la jambe par un projectile.
Une quarantaine d'individus, tous vêtus de noir, encapuchés, encagoulés ou avec des cache-coups, ont débarqué avec des couteaux, des marteaux.
Des violences qui pourraient être la conséquence des heurts qui ont éclaté lundi soir. La CRS 81 a rejoint les effectifs de police déjà déployés sur place.
Il y a certains résidents du quartier des Moulins qui ont voulu, entre guillemets, chasser ou régler leurs problèmes avec des mineurs isolés, des mineurs non accompagnés. Et là encore, les policiers sont intervenus. Et là encore, bien sûr, les situations se retournent contre nous.
Hier, le préfet des Alpes-Maritimes s'est rendu sur place pour délivrer un message de fermeté. Il promet de poursuivre les interpellations et les saisies de drogue. En un an, plus de 30 kilos ont déjà été interceptés dans le quartier des Moulins.
Et c'est vrai que les interpellations se font après, c'est toujours la même question, quel arsenal judiciaire et quelle suite? Mais quand vous voyez de telles images, Philippe Bilger, moi il y a une forme de, vraiment de résignation là,
vous avez,
triste.
En même temps, Sonia, vous l'avez très bien dit, il y a un contraste absolu à Nice d'abord entre l'opération Place Nette et ces images de violence collective absolument insupportables. Ce qui me frappe, c'est que nous sommes dans une ville où le maire et ceux qui l'assistent n'ont pas la moindre timidité pour mettre en œuvre les processus de défense qui sont nécessaires. Et pourtant, ça n'a pas d'effet. Il y a quelque chose d'angoissant dans le fait que même une politique cohérente et efficace, apparemment, n'a pas d'incidence sur cette violence qui aujourd'hui surgit pour tout et n'importe quoi, et notamment pour, à cause de la drogue.
On a entendu certains parler de l'armée. Je sais l'armée dont ce n'est pas le rôle, ce n'est pas la mission, ce ne sont pas les prérogatives. Mais j'allais dire, quand on n'a plus ou peu de solutions à proposer comme éventail, ben on se dit... Qu'est-ce qui encore représente l'autorité ultime absolue?
Oui, mais
il y a encore des représentants des syndicats de police qui disent, à partir du moment où on mobilise des moyens... que ces moyens sont pérennes, qui sont territorialisés avec les effectifs, les moyens adéquats, nous arrivons à obtenir des résultats. Il faut que la réponse judiciaire soit après très forte. La question d'un parquet national dédié à cette question-là, comme il en existe un sur le terrorisme, est parfois posée. Je ne sais pas si oui. ça a sa forme d'efficacité dans la réponse ou pas. Je ne suis absolument pas sur l'idée... C'est foutu, c'est plié.
D'accord, mais vous avez entendu là que certains habitants allaient s'en prendre à des... Vous vous rendez compte qu'on est dans un processus de...
Justement, quand l'État se retire, il y a beaucoup de processus qui peuvent...
Il se retire. Olivier, on était à la même émission hier soir, sur le plateau.
Ça vous arrive.
Et il nous a... J'ai conservé la même idée, oui. La nuit n'a pas été là-dessus.
Pardon, il nous a diffusé, pardon.
Et on va... Vous voulez les entendre, Bruno Le Maire?
Oui.
Alors... Oui. On rappelle juste le contexte, entendu au Sénat, commission d'enquête sur les narcotrafiquants qui ont les moyens de certains États, qui ont des sous-marins, et il veut maintenant, lui dit-il, le ministre, il veut sortir du cadre actuel, judiciaire, pour un cadre renforcé, presque d'exception comme le terrorisme.
Je vais répondre juste à moi, Olivier, pardon, mais si vous voulez, l'idée... qu'en mettant des policiers dans les cités, en gros, il y a des points de deal, on va régler le problème.
Oui, ça, fait, ça vient de se faire à Vénitieux.
Est-ce que je peux finir ma phrase?
Je te dis juste que ça vient de se faire à Vénitieux.
Non, mais ça se fait pour combien de temps, mais bon sang? Je veux dire, il y a des cartels de la drogue qui n'ont pas autant de moyens que les États, qui en ont plus. Il n'y a aucun pays démocratique aujourd'hui qui ait réussi à régler ce problème. Donc ce n'est pas en mettant des policiers dans les cités qu'on va le régler.
Il vous répond. Aussi. Et on écoute d'abord Bruno Le Maire.
Je ne dis pas que c'est la solution qui règle tout, mais c'est une partie de la solution.
Non, mais là, il a raison. Attendez.
Et surtout, il faudrait les multiplier.
Elisabeth, là où il a raison, pardonnez-moi, c'est que aussi il y a des habitants. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est en pleine nuit, la fusillade a éclaté. C'est à un moment, si au moins, je sais que c'est rien, c'est un pansement sur une jambe de bois, mais là, au moins, même momentanément, que ça s'arrête. On en est là, mais c'est vous avez raison.
Je ne dis pas le contraire.
C'est un défaitisme. C'est un discours défaitiste.
Après, tu as raison sur l'autre dimension.
Vous avez raison. Je dis juste.
C'est mieux que rien.
Oui, on en est là.
On finit toujours comme ça.
Écoutons Bruno Le Maire.
En fait, c'est vrai.
Mis à part les déficits, il parle des narcotrafiquants.
Oui, il élargit son
périmètre.
L'idée de s'inspirer de la jurisprudence sur le terrorisme qui fonctionne très bien. Le niveau de menace pour moi est similaire, il demande la même détermination et la même capacité à s'affranchir d'un certain nombre de règles que nous avons respectées jusqu'à présent et dont jouent les narcotrafiquants. C'est ma position de ministre de l'économie et des finances. Je connais les réticences de certains sur les libertés publiques, je peux les entendre, mais pour moi il faut appliquer au narcotrafic la même jurisprudence qu'au terrorisme, savoir s'affranchir de certaines libertés publiques pour protéger la liberté collective de nos compatriotes face à cette menace.
Alors Elisabeth Lévy, à son habitude, me faisait une remarque de bon sens. C'est vrai que pour avoir très souvent interviewé, je ne compte plus les interviews avec Bruno Le Maire ou d'autres ministres, on n'a jamais eu un tel discours lors d'une interview. En fait, il faut être dans une commission d'enquête. Et vous devez dire, je le jure, pour tout dire. D'ailleurs, c'est rassurant, mais...
Et plus il s'approche d'une ambition présidentielle, plus il dit la vérité. Encore un effort et peut-être sera-t-il totalement opposé à Emmanuel Macron. Oui. Mais c'est une autre chose. Mais là, ce qui me paraît important, Sonia, c'est que j'irais même, si vous le permettez, plus loin que lui. Il a totalement raison. Il faut sortir le narcotrafic de l'état de droit, mais je dirais même globalement. pour les insécurités du quotidien et le lien défectueux entre police, enquête et magistrature, il faudrait accepter de réviser notre état de droit.
Et vous voyez le lien, le lien entre la menace terrorisme et la drogue, pour moi. Et
il l'a dit, hein.
Oui, il l'a dit. Mais pour moi, c'est pertinent. Parce que pour revenir sur les écoles, regardez ce qui s'est passé à Nîmes. Vous avez des écoles qui ont été délocalisées à cause du trafic de drogue. Vous avez des élèves qui ont été protégés par la police à cause du trafic de drogue. Donc tout à l'heure, Sonia, quand vous disiez à juste titre qu'il y a des élèves qui arrivent à l'école la peur au ventre, il y a certes la menace islamiste, mais il y a aussi ce problème de drogue. Et à un moment donné, il va peut-être falloir être dur, être ferme, parce que pour l'instant, on ménage la chèvre et le chou. Et il n'y a strictement rien. Les hommes politiques ont la trouille.
Mais dites de quoi ? Ils ont la trouille que, évidemment, il y ait des scènes, d'émeutes, de chaos. Mais moi, je les vois déjà, ces scènes de chaos.
Mais moi, j'aimerais quand même que Philippe... Non, mais c'est intéressant, parce que là, on est dans le dur de notre discussion.
Et je risquerais d'être trop long, ma chère Elisabeth.
Mais alors, parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir jusqu'à quel point... Nous acceptons, moi je suis d'accord que pour certaines choses, notre état de droit est fou parce qu'il ne...
Mais qu'est-ce que ça veut dire notre état? L'état de droit, c'est un corpus de lois, de juridiction, de jurisprudence.
Attention. Et je vais vous donner ma réponse.
Quand on dit on n'est pas question d'en sortir, c'est de l'adapter.
Non,
c'est
mais tout. Aujourd'hui, c'est toujours une question d'équilibre. Aujourd'hui, cet état de droit se conçoit d'ailleurs lui-même comme protégeant les individus qui seraient toujours menacés par le méchant état et ne permettant jamais à la collectivité qui elle est menacée de se protéger. Protéger. Ce que j'essaye de vous dire, parce qu'hier, Pascal citait par exemple l'exemple du Salvador. Ce que j'essaye de savoir, c'est comment
peut-on rester une démocratie,
on ne veut pas... Voilà, non mais... Ce que j'essaye de savoir, c'est quelles seraient les quelques mesures d'exception.
Vous venez de donner la première mesure qui serait un changement radical de philosophie. L'état de droit n'est pas seulement destiné aux transgresseurs, il devrait d'abord consacrer à sauvegarder la majorité des honnêtes gens.
Une garde à vue, etc., qui dure beaucoup plus longtemps. Pardon, Olivier. Pardonnez-moi. Par exemple, en mesure d'exception, une garde à vue pour ces personnes qui dure comme une garde à vue pour des suspects de terrorisme.
Ça fait 4 jours, hein, c'est ça.
Exactement. Voilà une mesure qui paraît tomber sous le...
Et assez simple.
Les titres avec vous, cher Mickaël.
Dans l'enquête sur la disparition de Lina, la garde à vue des 3 individus interpellés hier a été levée ce matin. Ils ont été interrogés sur des incohérences d'emploi du temps le jour de la disparition de l'adolescente. Emmanuel Macron et le président brésilien Lula se sont entendus pour lever près d'1 milliard d'euros pour l'Amazonie, une enveloppe destinée à la protection de l'environnement mais aussi au développement économique de ces régions. Et puis les députés de Thaïlande approuvent la loi sur le mariage homosexuel, une avancée importante et une première en Asie du Sud-Est, même si le texte doit encore passer devant le Sénat.
Mariage, peut-être qu'il y a une chanson, un hymne à l'amour, qui pourrait célébrer de telles cérémonies. Quelle transition !
Elle est très bonne.
À vous, vous trouvez ?
Au moins, nous permet d'écouter Edith Piaf.
Dans ce monde de brutes.
Qui a été attaqué à son époque pour sa vie, ses mœurs.
Ah bah oui, mais pas pour
c'est
savoir.
C'est pas pour des mœurs qu'elle a été attaquée à Yana Kamura quand même.
C'est pas pour savoir.
Bon, en tous les cas, ça ressemble à une confirmation, puisque dans le Parisien, on a appris que les héritières d'Edith Piaf ont été sollicitées pour donner leur accord à une reprise, une réutilisation. J'ose même pas. C'est pas un tube pour moi, c'est un hymne. C'est qu'est-ce que qu'on pourrait dire ? C'est un étendard. C'est voilà. Et donc. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Eh bien voilà.
Peut-être la vie en rose aussi.
Ah oui, parce que effectivement, on ne sait pas parce qu'elles ont été interrogées qu'est-ce que vous préférez ?
Les deux.
Ah, l'hymne.
Vraiment, vous, à chaque fois il faudrait une autre.
C'est mon côté partageux.
Moi, je préfère Barbara, je sais pas. Edith Piaf, j'aime.
Ah non.
Ah, Barbara, j'adore.
Ah non, mais vous n'allez pas. Attendez. On a une polémique sur Ayana Kamura, vous n'allez pas me préférer.
On
ne touche pas Piaf, on ne touche pas Barbara.
Vous avez lu la déclaration, si vous voulez, c'est ça qui m'agace.
J'ai pas lu.
C'est qu'il faut qu'on nous fasse. Ça montre bien. Qu'il y a dans ce débat autre chose qu'un débat sur une chanteuse, c'est qu'il faut nous expliquer que la France, c'est qu'il n'y a pas d'identité française en dehors. Mais c'est ça qu'on
dit dans cette phrase.
Pour clore le sujet.
Regarde ce qu'il y a écrit.
On peut se dire qu'on peut aimer Nakamura ou pas. Il est totalement possible de ne pas aimer. Totalement possible de contester le choix du président en préférant un autre. tout en disant que le tombereau de racisme, de haine, oui, qui s'est déferlé contre elle sur les réseaux sociaux est tout simplement...
Mais est-ce qu'on a le droit de dire autre chose? Est-ce qu'on a le droit de dire autre chose? Est-ce qu'on a le droit de dire que ce choix, ça n'est absolument pas du racisme, que moi, en fait, je la connaissais même pas. Donc, ce qui témoigne de mon âge, de mon grand âge. Donc, j'ai découvert ces paroles un peu éberluées, je ne comprends rien, témoigne encore de mon grand âge quand j'ai lu ces paroles. Maintenant, elle chantera certainement très bien Piaf. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que quand il l'a choisie, le président ne l'a choisie pas simplement parce qu'elle a une belle voix et qu'elle a du succès, il l'a choisie au nom de son idéologie que Mathieu Bock-Côté appellerait diversitaire. Oui, mais, et c'est ça qui m'agace.
Oui, mais
voilà.
La France, et aussi Madame Nakamura. Oui, enfin, il ne faut pas partir du principe que la France est seulement blanche et catholique. Moi, je suis très attaché aux racines chrétiennes de la France, mais vous voyez bien que derrière, il y a des propos venant de l'extrême droite qui sont profondément racistes. Je n'aime pas les chansons de cette dame, je n'aime pas sa voix, mais je me battrai toujours pour qu'elle puisse chanter les chansons qu'elle souhaite chanter. Non, mais... C'est la liberté.
Mais mon cher Kevin, je vous préfère dans votre posture classique, hein, qui
vous voyez.
Mais la cause à ses élèves.
En réalité, mais Sonia, non, c'est vrai. Moi, pour répondre aux reproches de racisme, je dénie le fait que ceux qui ne souhaitaient peut-être un autre choix et qui dénoncent l'aberration du président qui veut surprendre à tout prix, soit des racistes.
Ah non, ils ne le sont pas.
Ah oui, mais je suis heureux.
Non, mais ça, on est d'accord.
De le préciser. Mais ceux qui disent retourner sur le marché de Bamako, ils le sont.
Mais oui, évidemment. Voilà.
Donc, mais, évidemment, voilà. Vous avez entièrement raison, c'est totalement inacceptable, intolérable.
On a le droit de critiquer.
On a le droit d'aimer ou de ne pas aimer.
Oui, sans être
donc, on peut dire, écoutez, on va se mettre d'accord sur...
Sur l'hymne à l'amour.
Allons-y.
Voilà.
Et on se retrouve dans quelques instants. Alors, l'amour. On est désarmé face à ça. Et pourtant, il faudrait être armé par rapport au sujet dont on va parler. Restez avec nous. Puisque...
Je l'ai dit, passer après ça, il faut le faire.
On n'est pas à l'abri peut-être d'une
bonne surprise. Pardonnez-moi, l'hymne à l'amour, c'est l'amour à ceux qui résistent, c'est l'amour aux hussards de la République et c'est l'amour au professeur qui va venir, Didier Le Maire. Voilà la transition, à tout à l'heure.
Et pour vous, chère Sonia. Voilà.
Un jour, Sonia, il faudra
faites gaffe,
l'entendre.
Je me sens trop bonne tout d'un coup.
Merci d'être avec nous. L'école à la une de l'actualité. On l'a appris tout à l'heure, le Premier ministre Gabriel Attal va donc recevoir dans l'après-midi le proviseur du lycée Maurice Ravel menacé de mort. On écoutera d'autres réactions d'élèves suite à ce départ du proviseur. Et nous sommes, et je l'en remercie, avec Didier Le Maire. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être là. Essayiste, professeur de philosophie, vous aviez été... fortement menacé au lycée de Trappes. Vous dénoncez depuis très longtemps, Didier Le Maire, évidemment, l'entrisme islamiste à l'école. On va en parler après le journal. Rebonjour à vous, cher Mickaël.
Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Vous l'évoquiez à l'instant, le proviseur de la cité scolaire, Maurice Ravel, à Paris, a quitté ses fonctions. Il avait été menacé de mort après une altercation avec une élève qui refusait de retirer son voile islamique. Un départ qui suscite l'indignation de la classe politique. Les gardes à vue des trois individus interpellés hier levés dans l'enquête sur la disparition de Lina. Cette adolescente de 15 ans a disparu le 23 septembre dernier alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Les précisions dans cette commune du Bas-Rhin de notre journaliste Régine Delfour.
Les trois gardes à vue dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Lina ont été levés cette nuit, faute d'éléments incriminants. Selon une source proche du dossier, trois personnes avaient été placées en garde à vue hier matin. Un homme avait été interpellé à son domicile et un couple qui avait été convoqué à la gendarmerie a été placé dès son arrivée en garde à vue. Ces trois personnes avaient été entendues au préalable par les gendarmes, mais des incohérences avaient été relevées lors de leurs auditions et ces gardes à vue devaient permettre aux enquêteurs de procéder à des vérifications, mais aussi de fermer des pistes sur la disparition de Lina. Lina a disparu le 23 septembre alors qu'elle quittait le domicile de sa mère de Plaine pour se rendre à Saint-Blaise-la-Roche pour prendre un train pour Strasbourg, rejoindre son petit ami. Des témoins avaient vu Lina sur cette départementale entre 11h15 et 11h30, mais à 11h22, le téléphone de Lina a cessé d'émettre malgré de nombreux moyens déployés, notamment des battues avec des équipes cynophiles, mais aussi de nombreux points d'eau qui ont été sondés. À ce jour, aucune trace de Lina n'a été retrouvée.
Dans le reste de l'actualité, Gabriel Attal réunit aujourd'hui l'ensemble du gouvernement pour un séminaire autour des finances publiques. L'objectif, vous l'avez compris, faire des économies. Et cela pourrait passer par une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Le Premier ministre qui devrait présenter ses mesures ce soir à partir de 20h à la télévision. Et puis Emmanuel Macron a décoré de la Légion d'honneur le chef Raoni, figure internationale de la défense de l'Amazonie. Une façon pour le président français de montrer son intérêt pour cette région. En accord avec le président brésilien Lula, 1 milliard d'euros vont d'ailleurs être levés pour venir en aide à l'Amazonie. Voilà Sonia, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews. La suite des débats tout de suite avec vos invités.
Et la suite des débats se concentre sur l'école. Plusieurs informations, vous le savez, depuis ce matin, c'est la poursuite malheureusement des menaces contre différents établissements scolaires, notamment dans la capitale, des menaces qui sont prises très au sérieux, à la fois par les services de police et de renseignement. Et c'est aussi l'émotion, l'émoi, après l'annonce du départ du proviseur du lycée Maurice Ravel, qui a été menacé de mort, vous le savez, suite à la remarque qu'il a faite à une élève. Il voulait qu'elle ôte son voile. Après un continuum de menaces, eh bien, ce proviseur est parti. Alors, la version, si je puis dire, officielle, en tous les cas, du rectorat, c'est qu'il est parti pour des raisons de convenance personnelle et qu'il était à l'approche de la retraite. Ce serait donc une retraite anticipée. Mais évidemment, dans ce contexte, c'est une décision qui interroge. Est-ce une défaite, une forme de soumission? Didier Lemaire, on a rappelé, j'ai rappelé tout à l'heure que vous avez été vous-même extrêmement menacé, d'ailleurs mis un moment sous protection policière. Vous dénoncez depuis très longtemps et vous dites que la première cible des islamistes, c'est l'école. J'allais dire que là, la preuve, malheureusement, on l'a aujourd'hui.
Oui, l'école, c'est l'école de la République, c'est l'école de l'émancipation, c'est celle qui permet de devenir citoyen. Et c'est donc la première cible, je pense, pour les islamistes aujourd'hui, c'est de fracturer cette école. En fracturant l'école, on fracture la nation, on monte une communauté, des individus qu'on assigne à une identité contre la communauté nationale.
Quand vous avez vu, je ne veux pas du tout, jeter l'opprobre sur... le rectorat, mais quand vous avez vu la réaction du rectorat, est-ce que vous y voyez une forme, un manque de soutien, pour ne pas dire plus, ou est-ce que vous attendez de savoir ce qu'il en est pour la décision de ce responsable ?
Pour moi, dès le départ, c'est un manque de soutien, puisque l'élève, même si elle est démissionnaire, aurait dû être exclue de manière définitive de l'établissement. Cette démarche n'a pas été entreprise, et le proviseur aurait dû être protégé, ce qui n'a pas été le cas.
Comment on peut l'expliquer dans le pays de Samuel Paty, de Dominique Bernard? Comment on peut encore... C'est quoi? C'est une inaction? C'est une lâcheté? Qu'est-ce qui peut motiver ça?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais la principale est peut-être la plus générale, c'est celle de la perte de sens de la mission des services publics dans tous les domaines, que ce soit l'école, la justice, la police, la santé. Nos représentants aujourd'hui ont oublié que ces services publics sont le ciment de la nation. Et c'est la raison pour laquelle finalement les serviteurs de la République, les serviteurs des services publics ne sont pas soutenus.
Je voudrais vous faire écouter, Didier Lemaire, des réactions de certains. Alors, ce sont ceux qui ont accepté de parler. Certains élèves ont accepté de parler. Certains, d'ailleurs, à visage couvert. Et ce qui frappe, c'est qu'il y a, même de leur part, il n'y a pas véritablement... Ils estiment que le départ de ce proviseur est tout à fait normal. Ils n'y prêtent pas plus attention. Écoutez-les.
Nous, on trouve ça bien qu'il ait démissionné parce que c'est pas mon proviseur.
Faut pas menacer de mort quelqu'un pour si peu. S'il a démissionné, c'est qu'il se sentait peut-être en danger ou pas, je sais pas.
Les menaces de mort, elles sont pas du tout venues de cette fille ni de sa famille. Et je trouve ça hyper grave d'instrumentaliser les gens comme ça. Elles sont venues de gens comme partout, la désinformation. Ça peut être n'importe qui. Ça se trouve, c'est son voisin qui était énervé contre lui et qui en a profité.
Comment vous réagissez, Didier Lemaire ?
Je crois qu'on a là une illustration de l'effet de la rumeur. La rumeur qui finalement rend impossible la reconnaissance de l'honneur de ce proviseur et de sa probité.
Enfin, est-ce que ça vous rappelle certaines réactions que vous avez vous-même connues?
D'abord, l'assassinat de Samuel Paty n'a été possible que parce que cette rumeur a enflé et qu'elle a même été relayée par une partie des fonctionnaires de l'éducation nationale qui ont accusé à tort le professeur. Ça a été la porte ouverte dans laquelle les islamistes se sont engouffrés. Pour ma part, cette rumeur aussi, elle a enflé après la publication de ma lettre aux enseignants dans l'Obs, après l'assassinat de Samuel Paty. Elle a été relayée au sein de mon établissement, elle a été relayée également par des élus qui m'ont attaqué, y compris en distribuant des tracts au mépris des règles de la République dans le lycée, me mettant en cause.
Écoutons justement la sœur de Samuel Paty, Michaëlle Paty, qui appelle au réveil, au sursaut, et puis à la responsabilité aussi de l'État. Écoutons-la.
Le 3 décembre 2020, à la lecture du rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Ce rapport s'intitule « Avec une sobriété forcée et anonyme ». Enquête sur les événements survenus au collège du Bois d'Aulne, Conflans-Sainte-Honorine. Retirant à mon frère la plus simple dignité, celle que cette enquête soit menée en son nom. Ici, on parle de gérer un trouble, l'origine du trouble étant le cours sur la liberté d'expression de Samuel Paty. La formulation choisie trahit l'intention véritable de ce travail. Il s'agit non de faire la lumière sur les responsabilités et les éventuelles erreurs des uns et des autres dans cette affaire, mais avant tout de dédouaner l'institution de toute responsabilité éventuelle.
Quand vous entendez un tel discours, mais d'abord, moi, je trouve qu'il y a une gémellité dans vos discours, dans votre courage, dans votre manière bien d'aborder ce défi immense pour nous. Comment vous réagissez à cela?
Oui, elle dit que nous sommes face à une démission, finalement, de nos représentants politiques. Et cette démission, elle a été documentée, en ce qui concerne Samuel Paty, dans deux ouvrages qui lui ont été consacrés, l'un de David Di Nota et l'autre de Stéphane Simon, qui montre la mécanique à l'œuvre avant l'assassinat et qui a eu lieu dans l'éducation nationale.
Je vais laisser tout le monde réagir.
Si vous me permettez,
oui, je voudrais juste
tout à l'heure une question.
Je vous en prie, mais vous allez le faire tout de suite. Juste un point, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de professeurs, mais il y a aussi les proviseurs, les chefs d'établissement. Vous l'avez souvent dit, Didier Lemaire, ils sont souvent ciblés, menacés, visés, et on en parle peu. On parle souvent plus des enseignants, parce qu'ils sont en contact
ils sont
direct.
Enseignants aussi, non?
Oui, tout
en
à fait. Mais ils sont un poste de responsabilité, d'autorité également. C'est pour ça que le symbole... Est-ce que vous diriez que c'est une forme de soumission, comme ça, de partir, pas de sa part à lui, attention, mais d'avoir laissé partir... De le laisser partir ainsi, ce proviseur.
Oui, c'est la victoire de la rébellion sur l'autorité, sur la règle et de façon générale sur la loi. Les chefs d'établissement sont en première ligne pour faire appliquer les textes et donc ils sont les premiers visés.
Est-ce que Didier Lemaire, je me reproche vraiment à l'époque où vous étiez en plein au cœur de la cible et de la polémique d'avoir sous-estimé ce que vous représentiez, alors que vous étiez, à l'époque, ce qu'on peut appeler communément un lanceur d'alerte. Est-ce qu'au fond, vous l'avez été à partir d'une expérience longue déjà, ou est-ce que vous aviez senti d'emblée les prémices? Et si vous me permettez d'ajouter un mot, vous ne croyez pas qu'au-delà de la lâcheté des instances et des hiérarchies, il y a cette terrible tradition française que celui qui dénonce le scandale est malfaisant alors que celui qui le crée doit être sanctifié.
Alors, pour ma part, j'ai toujours eu un positionnement extrêmement clair vis-à-vis de mes élèves à Trappe qui était celui de les considérer comme des élèves comme les autres. Mais cela n'a plus été possible après les attentats parce qu'eux-mêmes étaient en demande. Ils étaient en demande de positionnement. Ils cherchaient à comprendre dans quel camp se placer. À partir de là, j'ai pris conscience, c'était mon moment socratique, que je devais connaître leur monde, le monde qui m'échappait. Je suis rentré dans des associations à Trappe, j'ai exploré le terrain, et c'est là que j'ai découvert que partout, dans toutes les familles, il y avait des enfants qui connaissaient quelqu'un qui était parti en Syrie. Bien sûr. Ça a été les années entre 2015 et 2018. Ensuite, les choses se sont accélérées, les élèves ne se sont plus positionnés de la même façon. Ils ont pris, pour la plupart, malheureusement, le camp qui est celui de...
Je me risque à une comparaison par rapport à l'un des... Une chose que vous avez énoncée il y a quelques minutes. Moi, je vois un fil qui relie ce proviseur et le moment de solitude qu'il a dû vivre de manière intense et qui va être en partie réparé cet après-midi à Matignon, avec le cri de ce magistrat en commission d'enquête et vivant la même solitude et se faisant pour le coup retoquer par son ministre tutelle, le cri d'un chef de service des urgences avec les brancards dans les couloirs, l'État pour ces trois personnes devrait être en soutien immédiat. Immédiat. Or, on les sent dans une solitude ravageuse pour notre société.
Mais il faut dire pourquoi. Pourquoi, quand il y a cet entrisme islamiste, l'État, je ne parle pas du Premier ministre actuel, je dis pourquoi depuis des années, et nous avons connu deux chocs terribles, Samuel Paty et Dominique Bernard, n'oublions pas, c'est vrai qu'on parle très souvent de Samuel Paty, à raison, il y a aussi la famille, on pense à elle, de Dominique Bernard. Pourquoi l'État a peur et pourquoi la menace aujourd'hui se fait plus prégnante à l'école pour vous, Didier Lemaire ?
Je m'interroge, je me demande si ce n'est pas aussi une question de fonctionnement démocratique dans la mesure où les hommes politiques poursuivent avant tout leur carrière et ils font passer souvent leurs intérêts personnels avant l'intérêt général. Le rapport Aubin date de 2004 et malheureusement, les ministres de l'Éducation nationale n'en ont pas tenu compte depuis cette date.
Alors vous avez raison, mais il y a aussi, d'abord, il y a aussi des gens qui partagent tout simplement pas notre point de vue en l'occurrence. Il y a aussi des islamo-gauchistes, des extrêmes gauchistes qui trouvent que la laïcité, c'est vraiment très mal. Mais en fait, moi, il y a une chose que je voudrais savoir. En fait, j'essaye de me représenter, si vous voulez, comment le processus se passe. Qu'est-ce qui aurait dû se passer en réalité pour la protection de ces professeurs? Qui prend la décision? Est-ce que c'est la police?
Vous avez raison.
Qu'est-ce qui aurait dû se passer?
C'est la protection de l'intégrité physique, d'abord.
Parce que je viens de voir un communiqué là sur notre écran qui me rend folle. L'Éducation nationale n'abandonne jamais ses agents. Bah oui, bah voyons.
Est-ce que vous pouvez alors peut-être en quelques mots, et on vous laisse évidemment tout le temps, nous raconter comment vous, je sais que ça va vous replonger dans des moments extrêmement quand même difficiles, Didier Lemaire, pour vous, pour votre famille, mais nous rappeler ce long tunnel de l'isolement.
Oui, en effet, je me suis senti très seul et j'ai reçu très peu de soutien parce que une certaine presse m'a calomnié, a mis en cause ma parole en permanence. Ça a été assez difficile, effectivement, de faire face à des accusations qui étaient pour la plupart vraiment fantaisistes. Pour moi, ça s'est passé de la façon suivante, c'est-à-dire que à partir du moment où ma lettre dans l'Obs a été publiée, la ville s'est mise en ébullition, les renseignements territoriaux m'ont averti, j'ai été placé sous escorte policière, c'est-à-dire que j'étais accompagné de mon domicile par 4 policiers armés jusque dans mon établissement. Certains dans la police m'ont demandé de ne pas aller en cours parce qu'ils estimaient que la sécurité n'était pas suffisante. Je n'ai pas renoncé parce que je ne voulais pas être invisible.
C'est-à-dire dans les classes ?
Je voulais mettre en contradiction justement l'Éducation nationale. On m'a proposé d'emblée un poste ailleurs avec très peu d'heures, un poste très confortable. Je l'ai refusé. J'ai dit « je veux rester à mon poste ». Jusqu'au moment où cela n'a plus été tenable, en février. À ce moment-là, j'ai été mis sous protection policière permanente et j'ai dû quitter mes fonctions d'enseignant.
Et j'ajoute que vous avez été certain remis en cause ce que vous décrivez, la réalité de la menace très grave que vous viviez. Moi, je me souviens, pour vous avoir interviewé comme d'autres, je recevais des messages en me disant « attention, ne le reçois pas ». Ne le reçoit pas, ce n'est pas crédible. Donc il faut quand même se rendre compte de tout l'écosystème qu'il y a autour, parfois dans les médias, pour nous faire. Alors évidemment, quand on nous dit cela, la place, mais elle est, vous l'avez logiquement la place. Vous êtes un lanceur d'alerte, un hussard de la République, donc c'est tout à fait normal. Mais rendons-nous compte quand même des multiples pressions autour pour ne pas entendre un langage de vérité. Et en plus que vous tenez avec nuance, avec respect et sans du tout vouloir mettre le feu à quoi que ce soit. Vous avez toujours, je vous en remercie, parce que Didier Lemaire, depuis des années, le même discours construit, argumenté, recherché. Je veux dire, c'est pas commun. On devrait normalement sanctuariser, aider, soutenir toutes ces personnes.
Je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai une très grande admiration pour votre parcours, pour votre courage, pour votre pédagogie, la manière dont vous expliquez les choses. Et moi, je me reconnais dans votre témoignage. Vous avez maintenant un peu plus de recul, puisque vous n'êtes plus en activité. Moi, je suis encore au front tous les jours. Et parfois, je me pose une question. Est-ce qu'on est encore utile sur certains territoires? Et est-ce que le pari n'est pas perdu sur certains territoires, finalement, d'essayer d'appliquer cette laïcité. Alors, est-ce que pour vous, est-ce que le pari est perdu, par exemple, à Trappes, ou est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Et si oui, comment?
Je ne peux pas vous répondre dans le détail, mais je dirais que la question de la refondation de l'école est posée. Non seulement parce que les performances de notre école sont très médiocres, mais c'est aussi l'école, il faut le savoir, c'est l'école la plus injuste. C'est celle qui renforce le plus les inégalités.
Les inégalités, oui.
Et qui les reproduise et les renforce.
Les accentue, oui.
Et
les accentue.
À force de mesures égalitaires.
À force de mesures, effectivement, on vit dans un système un peu à la soviétique, avec à la fois un mensonge, une attitude qui se veut bienveillante de la part des enseignants qui surnotent, mais en fin de compte... la violence, finalement, des parcours scolaires est terrible. Les phobies scolaires à l'école ont été multipliées par je ne sais combien.
Mais ce n'est pas du tout bienveillant de surnoter. C'est un manque de respect et de bienveillance absolument. Alors, terrifiant. Hein.
Je trouve que votre réponse, moi, ça m'a éclairé ce que m'a dit tout à l'heure quand je vous ai demandé pourquoi ce manque de soutien, etc. J'ai tendance à y voir parfois de l'idéologie, mais je pense qu'il y a une forme aussi d'indifférence, de désintérêt, de je pense à ma carrière, à mon parcours, à ce qui peut me faire arriver. C'est tout aussi coupable et tout aussi inquiétant. Et heureusement, parfois, il y a des mains qui se tendent, il y a des initiatives qui se créent. Et c'est le cas avec, je vais vous laisser parler de, ce n'est plus un projet, vous m'en parliez pour tout dire à nos téléspectateurs il y a quelques semaines, quelques mois, et c'est devenu maintenant, ça a pris corps. Alors, de quoi s'agit-il? Et on voit à l'instant vos objectifs et vos actions, Didier Lemaire.
Alors j'ai décidé, parce que j'ai été contacté par de nombreux enseignants qui ont eux-mêmes été menacés et qui se sont trouvés seuls, j'ai décidé de créer une association pour les défendre, Défense des serviteurs de la République. Et cette association, elle défendra non seulement les enseignants, mais tous les fonctionnaires, tous les lanceurs d'alerte, les élus, les citoyens qui sont menacés pour défendre les principes
même
républicains.
Même les magistrats.
Y compris les magistrats. Ah, ben. Cette association, j'ai pris le temps de la construire. À vrai dire, il s'agit de l'association que m'a léguée en quelque sorte Georges Bensoussan, voir et dire ce que l'on voit, que j'ai transformée. Et nous avons... D'abord, il a fallu trouver des grands noms du barreau. Donc, nous avons Gilles-William Golnadel, Thibault de Montbrial, Caroline Valentin et d'autres avocats qui ont rejoint ce pôle pour défendre juridiquement ces personnes menacées. Nous les défendrons aussi moralement parce qu'il ne faut pas qu'elles restent dans le statut de victime et qu'elles restent seules. Et nous les défendrons aussi financièrement et matériellement comme nous pourrons le faire.
C'est vraiment une initiative très importante, salutaire. Vous avez cité Georges Bensoussan. Il faut se rendre compte, c'était il y a 40 ans, les territoires perdus de la République.
Non, c'était en 2000.
2000.
C'était il y a 20 ans. 22,
il y a 20 ans. Ouais.
Il y a... Pas 40 quand même.
Ça nous vieillit quand même. Jean-Pierre Aubin, vous l'avez cité tout à l'heure. Et là, je me reporte à vous, parce que vous avez en tête...
Non, Jean-Pierre Aubin.
Le premier rapport qui avait été remis et qui a été surtout planqué dans un tiroir... 2004.
Il s'est pas fait insulter lui aussi.
Si.
Il s'est pas fait traiter
C'est
incroyable. C'est pour ça que pourquoi cette initiative est très importante. D'abord, financièrement, c'est pas rien quand vous devez vous défendre. Moralement aussi, psychologiquement. Donc, vous avez une sorte de cordon pour entourer toutes ces personnes.
Oui, j'ai compris que je ne pouvais pas me contenter de m'indigner et de lancer en permanence des alertes, que cela allait me laisser finalement isolé et qu'il fallait agir. Et agir comment? En mobilisant finalement la société civile, tous nos concitoyens, autour de la défense, puisque l'État faillit à sa mission, autour de la défense des serviteurs de la République. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée et que j'ai réalisé cette association qui aujourd'hui est opérationnelle et qui d'ailleurs va élargir à la défense de la liberté d'expression, aussi au développement des connaissances sur ce qui fracture la nation. Nous prévoyons un colloque international qui sera le premier en France sur les islamismes le 15 mai prochain à la région Île-de-France. Donc nous allons nous occuper finalement de tous les aspects de ce combat pour la République.
impossible d'avoir des grands avocats de gauche républicains.
Attendez Philippe, on va déjà remercier, parce qu'il va rester avec nous, on va remercier pour l'initiative Didier Lemaire. Donc on peut aller sur Internet, on peut retrouver cette initiative. Comment on fait pour vous contacter si on est dans cette situation?
Alors c'est défenseetdesserviteursdelarépublique.org.
Parfait. Eh bien, je vous remercie. On va continuer à en parler, Philippe Bilger, avec vous tous. On va aller se rendre aussi dans un établissement de l'Aude. Et là, vraiment, cette série, cette vague de menaces, hier, elle a conduit à un confinement. Je veux dire, des collégiens qui vont la boule au ventre, des parents d'élèves qui pendant un certain temps n'ont pas de nouvelles de leurs enfants parce qu'il y a eu des menaces extrêmement graves et circonstanciées. Vous allez voir, c'est... Merci d'être avec nous. On vous le disait, l'école au cœur de l'actualité. Nous allons nous rendre dans quelques instants. Peut-être qu'on peut déjà voir les images hier de ce qui s'est passé dans ce lycée, cet établissement scolaire dans l'Aude, où il y a eu une menace d'alerte à la bombe, où il y a eu une sorte de confinement avec de nombreuses forces de sécurité sur place. Alors, il n'y a même pas besoin de dire quelle a été l'angoisse, l'inquiétude à la fois des personnels, des élèves, des parents, évidemment. On va en parler. Tout d'abord, le rappel des titres avec vous, Mickaël.
Plus de 170 Français et 70 étrangers évacués d'Haïti par l'armée française. Le Quai d'Orsay précise qu'il s'agit de personnes en situation de vulnérabilité qui ont été transférées aujourd'hui à bord d'hélicoptères vers Fort-de-France. 6,5 milliards d'euros, c'est le montant de la facture des catastrophes climatiques pour les compagnies d'assurance en 2023. Il s'agit de la troisième année la plus marquée en termes de sinistres climatiques après 1999 et 2022. Et puis 150 000 billets distribués gratuitement pour les Jeux Olympiques aux résidents de Seine-Saint-Denis. L'annonce a été faite hier par le département. Parmi ces billets, près de 30 000 sont consacrés à la cérémonie d'ouverture.
Ces images datent d'hier, fin de matinée, dans l'Aude, un établissement scolaire. Parmi d'autres, j'allais dire malheureusement, mais celui-ci, vous voyez, avec une intervention des forces de l'ordre, alerte à la bombe, confinement, et puis évacuation. Il faut se rendre compte, on a commencé il y a quelques jours la semaine avec des menaces et des mails vraiment terrible, horrible de décapitation envoyée dans des lycées parisiens, puis ça a été dans le nord, puis c'est dans le sud. Hier, Didier Lemaire, on ne connaît pas la nature, c'est peut-être une forme d'instrumentalisation, on ne sait pas. En tous les cas, on sait que pour propager la terreur, j'allais dire malheureusement, le but est atteint. Quand vous voyez ces images d'un établissement scolaire avec ses personnels de sécurité, probablement des élèves apeurés, à quoi ça fait référence? Qu'est-ce que ça vous inspire?
Nous vivons une période trouble. Le chaos s'installe dans notre pays. On ne peut que dire cela.
C'est vrai que ce sont des images qui font froid dans le dos. Je vais vous dire, quand j'ai vu ces images, je ne savais pas au départ. Je pensais qu'on était aux États-Unis avec une énième fusillade. Alors, fort heureusement, attention, c'est une alerte. Ensuite, il y a eu les démineurs, etc. Mais ça m'a fait penser à d'autres pays que la France.
Non, mais rappelez-vous, il y a aussi une sorte d'effet de contagion qui dit aussi quelque chose sur l'état d'abêtissement de notre société. Rappelez-vous que quand ça s'est passé dans les gares. Vous vous rappelez, il y avait même un couple qui avait tout simplement fait une alerte à la bombe pour pas rater son train, quand même. Non, mais ça a l'air drôle, mais j'imagine que quand vous étiez vous-même dans le train, ça l'était moins. Et il y a aussi cet effet-là, des gamins complètement nourris aux réseaux sociaux, à TikTok, c'est-à-dire à des mots de 2 syllabes et encore, et à des phrases de 3 mots et encore, je veux dire, qui trouvent ça vachement marrant. Vous voulez, parce que, mais si, il y a aussi non, ça,
Elisabeth, je suis parfaitement d'accord avec vous.
Ah bon,
sauf que là, déjà, on ne sait pas.
Non, on ne sait
et
pas.
Et ensuite.
Attention, c'est des mails très structurés.
Je ne parle pas de celui-là.
Attention quand même, parce que là, c'est une situation qui est compliquée et qui peut être gravissime. Et ensuite, moi, je suis désolé. La conséquence, c'est que les islamistes sont en train de gagner puisqu'ils sont en train d'instaurer un climat de terreur au sein de l'école. Et j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit c'est un attentat terroriste n'a jamais touché les élèves. C'est faux parce qu'il y a eu l'école juive d'Ozara Tora et c'est vrai que j'avais oublié cela et il faut aussi le mettre en avant. Et moi j'aimerais juste dire une anecdote. Tous les ans, on fait un exercice PPMS. Notamment les élèves, on les entraîne à se confiner ou à fuir quand il y a un éventuel intrus au sein d'un établissement scolaire. Moi, je vois au cours de ces deux dernières années, c'est la première fois où les élèves me disent « est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?» Alors qu'il y a encore quelques années, ils prenaient ça à la rigolade. C'est-à-dire que même eux ont conscience de la menace islamiste et ça participe aussi à ce climat anxiogène.
La question, c'est comment réagir ? Est-ce qu'on vit, comme on dit avec cette phrase, avec la menace comme si on avait le choix ? Est-ce que c'est une habitude ? Est-ce que c'est une résignation, Didier Lemaire ?
Moi, je crains la banalisation de ces phénomènes. C'est qu'on finit par s'habituer.
Voilà.
Mais sur les causes, il n'est pas à exclure non plus qu'il y ait une instrumentalisation de certains pays.
Bien sûr.
Et on profite pour déstabiliser la France.
Complètement. Tous ces scénarios sont sur la table. Donc je
mais est-ce qu'on peut
parler des conséquences
contre la formule de Kevin, les islamistes sont en train de gagner. Et le diagnostic que je partage, il y a une banalisation qui est très préoccupante. Est-ce qu'on peut encore avoir un discours affirmant le fait qu'on n'est pas sans réponse, sans moyens, sans détermination pour relever le gant, pour que ne pas baisser la tête et obtenir des résultats ? Parce que sinon, on est dans un récit qui, pour le coup, pourrait nourrir un processus.
Je pense
qu'on a des ressources considérables pour y faire face.
Est-ce que vous pouvez le dire juste après, parce que je voudrais montrer ce chapelet, ce continuum de menaces qui pèsent sur l'établissement. Il est résumé par Yael Benhamou. Et juste après, votre analyse.
Après, j'aurais répondu au livre.
Bien sûr.
Il se voulait garant de la laïcité au sein de son établissement, mais pour sa sécurité, il quitte ses fonctions. Il y a un mois, le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris demande à une étudiante en BTS d'ôter son voile islamique. L'histoire est diffusée sur les réseaux sociaux. Il reçoit alors des menaces de mort.
Il faut prendre conscience de la gravité de ce qui se passe. Nous sommes inquiets pour la sécurité de notre collègue, dont le seul crime en fait serait simplement d'avoir fait son métier et d'appliquer la loi.
Selon un message adressé aux parents et enseignants, le proviseur a quitté ses fonctions pour des raisons de sécurité. Le rectorat parle de convenance personnelle.
Ça donne clairement une impression de minimiser les choses. Ça ne rend pas hommage au courage et au travail de ce chef d'établissement.
Un jeune homme de 26 ans a été interpellé dans cette affaire. Il doit être jugé le 23 avril à Paris pour menace de mort sur Internet.
Elisabeth Lévy.
Oui, je voulais répondre à Olivier. Ce que je veux dire, c'est très bien, oui. On a certainement les moyens de relever le gant, mais pas avec nos discours un peu lénifiants. Je ne parle pas de voix, je parle de... Et certainement pas avec quelque chose qui est en train de nous plomber collectivement, qui est le déni. D'accord ? Et il faut quand même à un moment qu'on ait le courage de nommer ce qui se passe. Il y a aujourd'hui... Je veux dire, et c'est pas seulement en France, c'est en Belgique, c'est en Hollande, c'est en Suède, c'est partout dans le monde, certaines expressions de l'islam qui sont malheureusement en train de gagner du terrain, qui ne refusent en quelque sorte tout ce qui n'est pas musulman. Vous avez des gamins français élevés, si vous voulez, dont je ne sais pas, pas seulement par leurs parents, parfois ça échappe à leurs parents, élevés par une espèce de microclimat qui leur dit les musulmans contre le reste.
Elisabeth, vous avez tellement raison. J'ajoute quelque chose. N'y voyez
vous
pas manière d'atténuer ce que vous dites, mais de compléter. Je rappelle souvent, et c'est pas pour être, vous savez, quels sont mon combat, si je puis dire,
bien
à ma
sûr,
modeste place. Les musulmans, et souvent les pays musulmans, sont aussi des victimes
sûr,
de cet islamisme, cet islam radical politique, appelez-le comme
vous. C'est pour ça que j'ai dit, c'est certaines expressions de l'islam. Je constate d'ailleurs, et c'est marrant parce que j'allais vous le dire, que dans le fond, le problème qu'ont connu les pays du Maghreb, notamment dans la décennie, dans la fin du siècle dernier, ces problèmes-là, aujourd'hui, si vous voulez, on a l'impression que nos sociétés sont mises au défi, exactement
et
comme l'ont été.
Et que vous dit Boualem Sansal.
Voilà. Et
ben, Boualem... vous dit, mais moi, je...
Absolument.
C'est quelqu'un qui est formidable, qui
magnifique.
Ouvrait les yeux. Et parlez
oui.
Vous dites le Maghreb, mais parlez aux Algériens qui ont connu la décennie noire. Des milliers et des milliers, 100 000 ou peut-être plus, de morts, du terrorisme islamiste, ils ne supportent pas la moindre offensive. Ils ne laissent pas faire. Et parce qu'ils ont
mais on est beaucoup plus faible. Et là, je ne parle pas simplement de l'état de droit, parce que je ne veux pas qu'on renonce à notre droit. Mais on est beaucoup plus faible idéologiquement, politiquement.
Est-ce que la bataille est à mener d'un point de vue culturel? On dit beaucoup laïcité, Didier Lemaire. Laïcité, quand même, on va dire que c'est une spécificité française. Mais est-ce que c'est une bataille plus grande, évidemment, culturelle, sur notre histoire, sur ce qu'on doit mettre en avant et faire ces fameux Français de désir?
Je pense qu'il faut faire de la pédagogie, déjà réexpliquer ce que sont les principes républicains, en quoi l'égalité, la liberté, la fraternité sont les conditions de notre contrat social et de notre vie ensemble. Je crois que ce sont des principes qui sont mal compris ou parfois négligés, oubliés.
En tout cas, l'invocation permanente de la laïcité n'est absolument pas une arme efficace.
Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Le Maire.
Elle est importante, elle est nécessaire, mais pas suffisante.
La pédagogie ne sert à rien si l'école de la République ne retrouve pas le rôle d'ascenseur social. Quand vous allez dans les banlieues, vous avez des gamins qui veulent réussir, qui veulent gagner de l'argent, qui veulent avoir des statuts dans cette société, et c'est aussi un moyen de les extraire du communautarisme et parfois de l'islamisme. Je ne dis pas qu'en faisant ça, on va tout régler. Mais si on peut faire en sorte que certains gamins suivent la voie de la République à travers une ascension sociale personnelle, ça vaut le coup. C'est sur là-dessus qu'il faut insister, et je crois que vous l'avez très bien dit tout à l'heure.
Mais vous permettez une critique là-dessus? Il ne faudrait pas laisser penser, si vous voulez, que ceux qui sont endoctrinés, c'est parce qu'ils sont pauvres, malheureux, laissés pour compte.
C'est pas ce qui a été dit.
Non, mais je dis juste qu'il ne faut pas pousser votre raisonnement jusqu'à ce point, parce qu'on peut entendre cela comme...
Oui, mais moi j'ai déjà vu que quand vous n'avez plus d'espoir et que vous êtes dans la désespérance, vous vous réfugiez dans un groupe, dans un clan, ou alors dans une idéologie.
Si je peux me permettre, pas seulement. Si vous n'avez pas aussi, comment dire, une référence, un cadre référentiel, alors peut-être que c'est une thèse à laquelle vous n'adhérez pas, mais moi je dis quand il y a une forme de vide de spiritualité, une absence totale de sacré, de transcendance, qui n'est pas du tout religieuse, attention. Oui,
mais la République est une forme de sacralité.
Voilà.
Et bien, ça ne marche plus.
Mais comment la remettre, je veux dire, au centre de ce qui est sacré, normalement, là. Vaste défi. Hein.
Oh là là, mais moi, je ne suis pas d'accord.
Ouais. Non, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que... Bon, on le voit avec le personnel de l'éducation nationale, mais c'est quelque chose qui va continuer, qui va s'étendre, et je ne vois aucune raison que l'islamisme ne progresse pas encore et encore. Donc notre nation est en danger, notre république est en danger, notre démocratie est en danger. Et sans une mobilisation, je dirais, nationale, transpartisane, qui refonde nos services publics et qui se mobilise avec une stratégie d'ensemble contre l'islamisme, je ne vois pas comment nous pourrons avancer. Ouais. Telle ou telle mesure en elle-même... Qui peut avoir son efficacité, ne fera pas reculer les islamistes. Il faut coordonner toutes ces mesures, les penser dans la durée, éventuellement adapter la stratégie en fonction de l'expérience. Il faut des stratèges, il faut
mais
des...
Mais vous vous rappelez ce que disait Pierre Manant ?
Il faut être persuadé de la légitimité
du combat.
Non, mais... Oui, tout à fait.
Est-ce que vous vous rappelez ce que disait Pierre Manant ? Je sais que vous aimez le...
Formidable philosophe.
Absolument. Là. Il avait écrit un bouquin qui avait d'ailleurs fait beaucoup de questions, où il parlait effectivement de la question de l'intégration, si on veut, ou des musulmans en France. Et il disait, dans le fond, il faudrait... reposer les bases d'un pacte. Alors, on lui avait beaucoup reproché de faire éventuellement trop de concessions. Le problème aussi, c'est qu'on ne sait pas avec qui le faire. Mais je crois qu'il serait bon qu'au plus haut sommet de l'État, on dise effectivement à nos concitoyens musulmans qu'ils sont évidemment des citoyens à part entière, égaux, etc. Ça veut dire qu'ils sont soumis aux mêmes lois. Mais leur dire quelles sont nos lignes rouges. Quelles sont les lignes rouges de la France?
Je suis d'accord avec l'idée de pacte, mais pour faire écho à ce que disait Kevin, comment ce pacte peut tenir si des enfants de la République font le constat que dès le début, les dés sont pipés pour eux?
Mais si vous et leur pour... dites ça, ils vont finir par
mais
le croire.
Y a le réel est quand même épouvantable dans certains quartiers. C'est-à-dire que c'est la formule « quand l'État se désengage, d'autres processus arrivent ». Si déjà on arrivait à régler ce qui devrait être la grande promesse républicaine, d'une égalité réelle. Ça permettrait une réponse.
Regardez quelques minutes.
Oui, je suis d'accord avec vous, Olivier, et ça concerne aussi, par exemple, les élèves des campagnes qui connaissent aussi les mêmes problèmes. Juste une minute. Il faut être ferme sur les valeurs.
Non, mais nous sommes d'accord.
Oui, mais c'est important.
Alors, qu'est-ce que c'est que les valeurs?
Mais regardez, vous prenez, non, mais franchement, vous prenez Gabriel Attal, qui a interdit la baïa. On a été ferme, ça a été appliqué. Je suis désolé. Donc, il y a une volonté politique et une conscience collective. On arrive aussi à faire respecter la laïcité.
Mais vous vous rendez compte, en réalité, ce qu'on fait passer pour une victoire, c'est la normalité.
Je suis d'accord. Oui. On en est là. Ah, mais je suis d'accord
avec
vous.
C'est juste le respect de la loi.
C'est une première marche.
Mais la normalité devient exceptionnelle, tellement elle est gangrénée de partout.
Non, pourquoi je voudrais terminer sur ce sujet? Parce que cette jeune femme, elle était l'invitée ce matin de Pascal Praud. C'était très touchante par les mots qu'elle a utilisés pour raconter son calvaire. Son témoignage est très puissant. C'est une bataille quotidienne pour continuer à vivre. C'est une rescapée des attaques terroristes du 7 octobre en Israël. Elle a vécu ces moments terribles avec son mari. Et je trouve qu'elle a... Elle parle d'Israël, elle parle de ce qui se passe à Gaza avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de, je trouve, de courage et d'intelligence. Écoutons un premier extrait de son entretien.
On commence à voir des blessés, on entend les coups de feu qui se rapprochent. Et c'est le moment que j'ai une conversation avec mon mari. Et comme je connais bien le sud d'Israël, je lui ai dit, ça ne sert à rien qu'on court. C'est une forêt, on ne va pas se cacher derrière un arbre. Et si on ne peut pas prendre la voiture, la caravane. La meilleure option, on va se cacher dans la caravane. Disons que les 40 minutes, quand on est rentré dans la caravane, on a entendu les terroristes débarquer, des hurlements d'Allahu Akbar, des armes qu'on a... Enfin, j'ai vite compris que c'est des automatiques, au son que ça fait. Et on entend des gens hurler, vraiment. Les gens hurler, les gens courir partout, essayer de sauver leur vie et les terroristes. Puis après, ça va devenir un peu plus silencieux, parce que la majorité des gens ne sont plus là.
Peut-être encore...
Ça a été un grand moment ce matin sur Pascal Praud, chez Pascal Praud. Ceux qui n'ont pas vu ce témoignage, je les invite vraiment à le faire. C'est un grand moment de télé, notamment dans les silences.
Oui. Alors justement, écoutons à la fois les silences et comment elle décrit ces nuits blanches et ces idées noires.
On a eu la chance de revenir ensemble à la maison et d'avoir vécu les mêmes choses. Oui. Donc les cauchemars sont les mêmes cauchemars et les nuits blanches sont les mêmes nuits blanches. Donc on le vit ensemble, mais on est tous les deux toujours très perturbés de ce qui s'est passé. Et vraiment impossible d'essayer de guérir ou de respirer ou de reprendre un appétit quand à chaque repas, on pense à nos amis qui sont toujours à Gaza. Ça nous hante.
Bien, je crois que votre conseil est le meilleur. Retrouvez le replay, vous pouvez le voir sur notre site, évidemment, CNews. Merci Didier Lemaire. Merci plus largement pour beaucoup de choses, vous le savez. Je vous dis à très bientôt. On connaît votre initiative, on va rappeler le nom. Ce sont les...
Défense des serviteurs de la République.
Quelle belle appellation, tout est dit. Merci encore, je vous dis à très bientôt, chers amis.
Bientôt. Fini.
Au revoir. Deux heures quand même ensemble, cher Philippe. Oui, mais... Merci beaucoup.
Merci Sonia.
Et place au titre avec vous, Mickaël.
Merci.
Il sera reçu par le Premier ministre Gabriel Attal. Le proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel à Paris a quitté ses fonctions. Il avait été menacé de mort après une altercation avec une élève qui refusait de retirer son voile islamique. Et puis la flamme olympique a trouvé son point de chute pour la période des Jeux Olympiques. Elle va élire domicile au jardin des Tuileries pendant toute la quinzaine des Jeux en plein cœur de la capitale. Un endroit choisi en raison de sa facilité d'accès au public.
Et bien voilà, tout est dit, si je puis dire, en tous les cas, pour ces principaux faits d'actualité. Merci encore de vos analyses. Toujours un plaisir de vous avoir autour de la table. Moi, je vous dis à demain, Midi News, évidemment. Et pour l'heure, restez avec nous. Vos éditions se poursuivent sur notre antenne. Bel après-midi.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.